Le journal, Emmanuel Grabet. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à toutes et à tous. Des milliers de personnes contre le racisme et les violences policières partout en France hier. Témoignage d'un jeune homme de Metz. Jamais rien à se reprocher, dit-il. Et pourtant, il connaît la plaque d'immatriculation de la voiture de la BAC par cœur. La BAC, justement, qui manifestait hier soir gyrophares et sirènes au pied de l'Arc de Triomphe, alors qu'Emmanuel Macron prend la parole ce soir à 20h. Espoir d'annonce très attendue à l'école, notamment, on va l'entendre. Nous irons aussi à Marseille. Soupçon de fraude, de fausse procuration, c'est presque une tradition, nous dira un fin connaisseur de la cité phocéenne. Et puis, le Dalai Lama sort un album pour son 85e anniversaire, un album dans lequel on peut l'entendre prier.
Nos invités dans le 6-9 du week-end à 7h50 avec Patricia Martin, le metteur en scène et dramaturge Peter Brook. Et puis à 8h20, deux invités, Aurélien Taché, député du Val-d'Oise, ex-membre de La République En Marche. Il a rejoint le groupe Écologie, Solidarité et Démocratie. Il nous dira ce qu'il attend de l'intervention télévisée ce soir d'Emmanuel Macron à 20h. Et puis une scientifique, elle sera avec nous, c'est Dominique Costagliola, épidémiologiste, directrice adjointe de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Avec elle, question sur les médicaments anti-Covid, le vaccin possible et les rythmes du déconfinement.
France Inter.
Paris, Nantes, Bordeaux, Caen, Pau, un peu partout en France, des milliers de personnes réunies contre le racisme et les violences policières. Un peu partout, des prises de parole. Un peu partout, les mêmes récits, les morts ou les coups lors des interpellations. Mais aussi, un peu partout, ce sentiment intériorisé d'être traité différemment à cause de sa couleur de peau, cette peur totalement ancrée dès le plus jeune âge. C'est ce qu'a raconté Georges à Marc Bertrand de France Bleu Lorraine Nord. Georges a 17 ans, il est noir, il vit à Metz.
On dirait qu'on n'a pas la même liberté, vous et moi. On a la même liberté de marcher, prendre un verre en terrasse, aller au McDo, faire ce qu'on veut. Mais nous, on va être plus traqués que vous, alors qu'on n'a rien demandé, vous voyez. Je vais me retrouver dans une ruelle tout seul, avec une dame. La voiture de la BAC, elle va passer. La voiture de la BAC, ils vont s'arrêter, ils vont ralentir. Pourquoi? Ils vont se dire, ah, il peut peut-être arracher son sac, il peut peut-être la violenter. Alors que vous, vous allez marcher, ils vont dire quoi? Ah, c'est deux personnes dans une rue, ils marchent RAS. Je suis pas un délinquant, moi, je vais à l'école, je suis en premier STMG, je vais à l'école. Je fais rien dans la vie, j'ai mon frère et ma sœur, je sors avec mes amis, je joue au foot, j'habite en centre-ville, je suis pas dans les quartiers, tout ça. Maintenant, comment est-ce qu'on est arrivé à savoir que EC465 LS, c'est la voiture de la BAC? C'est grave, alors que vous, vous voyez juste ça comme une Skoda noire, vous allez juste voir une Mondeo break, moi je veux voir voiture de la BAC. Et j'ai peur, alors que j'ai rien à me reprocher, je marche, mais je sais pas pourquoi j'ai peur. Et c'est ça le problème aujourd'hui, ça que je pense que les gens ils veulent dénoncer à travers les manifestations.
Georges, adolescent de Metz, interrogé par Marc Bertrand. À Paris, ils étaient 15 000 à l'appel de la famille d'Adama Traoré sur la place de la République. Avec quelques heures en fin d'après-midi, face à l'interdiction édictée par la préfecture de police de défiler jusqu'à l'Opéra Garnier, 26 interpellations, dont 12 militants d'ultra-droite. Un rassemblement immédiatement suivi d'une nouvelle démonstration de colère des policiers. Une action coup de poing à l'appel de la brigade anticriminalité de nuit de Paris. C'était hier soir au pied de l'Arc de Triomphe. Une centaine de fonctionnaires, Boris Allier, qui se disent abandonnés par leur ministre.
Gyrophares allumés, menottes au sol, sirènes hurlantes, les policiers veulent se faire entendre du ministre de l'Intérieur qui, cette semaine, a annoncé la suppression de la technique dite de la clé d'étranglement. Incompréhensible pour Johan Marat du syndicat Alliance.
Supprimer cette technique, aujourd'hui le ministre de l'Intérieur nous dit qu'on va essayer d'en trouver une autre, mais on prend le problème à l'envers. On devrait déjà trouver une nouvelle technique, et une fois qu'on a trouvé une nouvelle technique, effectivement on pourrait remplacer la technique existante. Ces techniques, elles sont utilisées pour des gens qui se rebellent violemment contre les forces de l'ordre.
Des techniques qualifiées de meurtrières quelques heures plus tôt par Assa Traoré lors de la manifestation contre le racisme et les violences policières.
Nous en avons marre d'être stigmatisé.
Josias Claude, secrétaire adjoint du syndicat Unité SGP Police à Paris.
La famille Adama Traoré peut contester les expertises qui ont été faites. Il y en a néanmoins trois qui ont été faites. Et je pense que malheureusement, cette pauvre famille est aussi instrumentalisée par certains partis politiques d'extrême gauche qui attisent la haine. Et maintenant, dans la rue, on entend tout le monde déteste la police.
Emmanuel Macron doit répondre au malaise. Voilà ce que disent ces policiers qui regarderont avec attention l'allocution du chef de l'État ce soir.
Un reportage pour France Inter de Boris Allier.
Et Emmanuel Macron prendra la parole à 20h pour la quatrième fois depuis le début de l'épidémie.
Discours et décryptage à suivre avec nous sur France Inter. Le chef de l'État devrait annoncer la manière dont va se dérouler la suite du déconfinement. Une mesure a déjà été levée face à la multiplication des rassemblements et des défilés depuis près de deux semaines. Plusieurs associations avaient saisi le Conseil d'État pour rétablir le droit de manifester. Eh bien, c'est chose faite. Le juge des référés a mis fin hier à une dispositions de l'état d'urgence sanitaire. La situation, selon lui, ne justifiait plus cette mesure d'exception à condition que les gestes barrières soient respectés et que les rassemblements n'excèdent pas 5000 personnes. Pour l'avocat de la Ligue des droits de l'homme, Patrice Pinozzi, c'est un camouflet pour le gouvernement.
Ce n'est pas parce que nous sommes dans le cadre d'un état d'urgence sanitaire qu'il ne peut pas y avoir d'abus et que la liberté qui a été donnée par le Parlement au gouvernement n'est pas absolue et que dans ces conditions, il faut veiller à toujours rester dans cette logique de proportionnalité, de nécessité. Or ici, nous ne l'étions plus. Il n'y avait aucune raison que on puisse aujourd'hui aller au café, aller à la messe, mais qu'il soit interdit de manifester. Et le Conseil d'État clairement dit, vous avez été trop loin, trop longtemps. Maintenant, il faut que cela cesse et il autorise dans ces conditions la manifestation à partir du moment où elle est inférieure à 5000 personnes.
Patrice Pinozzi, avocat de la Ligue des droits de l'homme. Autre enjeu de la prise de parole du chef de l'État ce soir, la réouverture des restaurants en Ile-de-France ou encore l'assouplissement des règles sanitaires dans les écoles, très très attendu par de nombreux parents mais aussi et surtout par les professeurs. Sophie est directrice d'école à Paris. Elle parle de double peine entre sentiment de ne pas remplir son rôle pédagogique et colère des parents qu'elle doit affronter.
Moi, mes classes mesurent 45 mètres carrés. Il faut 4 mètres carrés par élève. Ça veut dire que je mets 10 élèves par classe. Et le ministre nous demande d'accueillir 15 élèves par classe. Donc, si j'applique strictement le protocole, je ne peux pas les mettre, les 15 élèves. Mais après, il faut faire comprendre aux parents que c'est pas nous qui avons décidé, en fait. Et quand on leur dit, ben non, c'est pas possible parce que gestes barrières, etc., on reçoit beaucoup de mails qui sont incendiaires, on va dire, pour être gentil. Parce qu'on est à la limite quand même de la menace et donc on prend toute cette agressivité, toute cette colère. Et puis on a des groupes multiniveaux, donc même les enseignants ne font pas leur métier d'enseignement. On lave les mains, on passe quasiment autant de temps dans les toilettes que dans les classes. Si le protocole est assoupli et que j'ai plus mes 4 mètres carrés obligatoires, oui, je reprends tous les enfants qui veulent revenir.
Sophie, une directrice d'école parisienne au micro de Daniel Messager. Et si l'on s'en tient aux chiffres, rien n'indique pour l'heure une reprise de l'épidémie en France. Dernier bilan, 24 morts dans les hôpitaux. Le nombre de personnes dans les services de réanimation continue de baisser. À noter que l'Union européenne a sécurisé son approvisionnement en vaccins en concluant un accord avec le groupe AstraZeneca. Il garantit la fourniture de 300 millions de doses.
Emmanuel Grabet, à Marseille, la campagne municipale de la candidate Les Républicains prend un tour judiciaire.
Des perquisitions hier dans le local de campagne de la tête de liste Martine Vassal après l'ouverture par le parquet d'une enquête préliminaire pour faire la lumière sur des soupçons de trafic de procuration en vue du second tour. Dans deux semaines, la droite est en ballottage défavorable. Un changement dans les rapports de force qui n'est pas une nouveauté. D'après le prix Albert Londres 2014, le journaliste fin connaisseur de Marseille, Philippe Pujol.
La fraude électorale à Marseille, elle date pas de cette élection. C'est quelque chose de presque traditionnel. Mais d'habitude, les camps en présence ont des pouvoirs clientélistes, puisqu'il faut des personnes pour pouvoir frauder. Donc, on chacun des équipes, des gens qui sont achetés de manière très concrète, hein, avec des logements, avec des emplois, avec des aides diverses et variées. Et ces gens-là, ensuite, par exemple, ont ceux qui vont porter les procurations. D'habitude, tous les grands partis possèdent ça, ils se neutralisent les uns les autres. Là, des partis qui ont une puissance de feu de la sorte, le Printemps Marseillais n'en a pas, La République En Marche n'en a pas, Bruno Gilles n'en a pas, Samuel Galli n'en a pas. Et donc, ça se neutralise pas cette fois.
Le journaliste Philippe Pujol. Et puis, il n'est jamais trop tard pour se lancer. Pour son 85e anniversaire, le Dalai Lama se met à la musique. Il sortira un album le 6 juillet prochain, un album spirituel dans lequel on peut l'entendre prier. D'ores et déjà, un premier titre est présenté. Sa découverte avec vous, Nathanaël Charbonnier.
C'est avec le plus célèbre des mantras tibétains que le Dalai Lama a choisi de s'adresser au monde. Om Mani Padme Hum, c'est la prière, celle qui invite à la compassion et qui rassemble toute l'énergie du bouddhisme tibétain. C'est la première fois que le Dalai Lama se prête à ce genre d'exercice pour une idée qui est née il y a 5 ans dans la tête d'une étudiante néo-zélandaise et de son ami. Tous deux souhaitaient créer un album destiné à soulager le stress au travail, avec une musique planante et surtout avec la voix du Dalai Lama. Mais ce disque est aussi une façon pour le chef spirituel du Tibet de rappeler que son pays est toujours occupé par la Chine. C'est aussi un moyen de garder en mémoire son enseignement, ainsi que de continuer à faire vivre la culture tibétaine malgré la politique chinoise qui vise à la nier et à l'effacer. D'ailleurs, les bénéfices de la vente de l'album seront affectés au programme d'éducation sociale soutenu par le Dalai Lama.
Voilà, sortie de cet album le 6 juillet prochain.
C'était le journal d'Emmanuel Grabet. Le standard, le 01 45 24 7000 est à votre disposition si vous souhaitez interroger nos invités qui seront en ligne avec nous à partir de 8h20 ce matin. Aurélien Taché, député du Val-d'Oise, ex-membre de La République En Marche, et Dominique Costagliola qui est épidémiologiste et avec elle on parlera bien sûr du traitement contre le Covid-19 et aussi du vaccin possible et enfin des rythmes du déconfinement. Les couleurs du ciel.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
En ligne avec nous, Jean-Michel Golinski de Météo France. Jean-Michel, les températures se rapprochent petit à petit de la normale.
Et oui, avec 20 à 27 degrés prévus cet après-midi, il fera 25 à 27 près de la Méditerranée qui va retrouver aujourd'hui un franc soleil, mais avec quand même pas mal de vent, en particulier de la Côte d'Azur à la Corse. Sur le reste du pays, l'ambiance sera plus variable avec un risque d'ondées sur les montagnes de l'Est et sur les Pyrénées. En revanche, sur le quart nord-ouest de la Bretagne aux Charentes et du centre à la Basse-Normandie, les averses seront plus fréquentes avec même la possibilité de coups de tonnerre en cours d'après-midi, avec une vingtaine de degrés prévus près de la Manche, également sur l'Alsace, le Val-de-Loire, le Limousin et les Charentes, et 22 à 24 sur les autres régions.